Avant d'attaquer l'épisode Arcane, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours artistique, s'il te plaît? Dans les grandes lignes.
Dans les grandes lignes, j'ai commencé à faire sérieusement de la musique avec mon premier groupe qui s'appelle The All Dead Tree à la fin des années 90. On a enregistré deux EP et trois albums et ça s'est arrêté en 2009, à la suite de quoi ben, tu fais quelques apparitions au sein du projet d'opéra metal Melted Space où j'étais un des chanteurs. Et puis, depuis 2016, je suis la voix claire du groupe Arcane, donc groupe de métal oriental, qui sort aujourd'hui son cinquième album.
Finalement, quelle a été l'étincelle qui t'a fait te mettre, enfin, peut-être à la musique en général et en particulier au chant?
Alors, le chant, c'est les circonstances. C'est que dans The Old Free, moi, j'étais guitariste et on ne trouvait pas de chanteur. On a cherché et on ne trouvait pas de chanteur. Donc, bah, je me suis mis un petit peu par hasard. Et puis, petit à petit, je me suis amélioré jusqu'à ce qu'on finisse par me dire que c'était vraiment super ce que je faisais et qu'il fallait que je continue. Donc, maintenant, je ne joue plus de guitare et je fais beaucoup de chant.
Et ça te démange pas la guitare, pas de soucis?
Si tu veux, je joue de la guitare à la maison, je compose sur la guitare, ça, c'est aucun problème, j'aime beaucoup cet instrument. Mais le fait de jouer en chantant, ça me demandait trop de concentration et ça m'enlevait beaucoup de plaisir sur scène. Donc, voilà, j'ai fait le choix de me concentrer sur, enfin, là où j'étais le meilleur.
Parfait. Maintenant, pour quelqu'un qui connaîtrait pas Arcane, est-ce que tu pourrais, premier exercice, essayer de résumer le groupe en trois mots ou trois expressions? Et l'autre exercice, au lieu d'essayer de coller une étiquette, machin, mode métal, truc, et peut-être plus essayer de cerner l'identité du groupe par des influences communes au sein du groupe, les artistes qui font l'unanimité au sein de la bande.
Alors pour les trois mots qui pourraient décrire le groupe, évidemment, je te trouve très dur hein, quand même dans tes questions. C'est un groupe qui est très ouvert d'esprit. L'ouverture, c'est quelque chose de très important parce que c'est un groupe qui va faire un grand écart entre la culture orientale maghrébine dont sont issus plusieurs de ses membres et le métal occidental tel que tous tes lecteurs le connaissent. C'est un groupe qui peut être extrêmement violent. Initialement, c'était le premier EP de Darkane, c'est du death metal. Même s'il y a déjà des influences orientales, c'est vraiment du death metal. C'est un groupe qui joue avec des guitares 7 cordes sous-accordées, qui fait produire cet album par Frédéric Nordström, qui est une référence dans la matière. Mmh. Et en même temps, c'est la mélodie. Parce que on contrebalance tout ça. On est loin d'être un groupe qui joue tout à 100 à l'heure et dans lequel il n'y a aucune pause. Au contraire, on joue énormément sur le relief, en fait, sur les échanges de dynamique, sur la surprise entre les passages violents et les passages très calmes. Et en ce qui concerne la deuxième partie de ta question et les influences communes, ben, je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Tu trouveras toujours, ça je pense que c'est presque propre à toute la scène métal, des références communes sur Metallica, sur Sepultura, enfin la scène métal de notre génération en tout cas, des groupes qui ont vraiment fait l'unanimité. On a tous été fous de Megadeth, ce genre de choses-là. Et ensuite, par contre, en grandissant, on s'est tous concentrés sur des scènes différentes. Moi, pour ma part, c'était beaucoup la scène métal gothique. Je sais que Fouad était grand fan de black metal, Mus et Sam ont beaucoup travaillé sur la scène scandinave de death. Et Florent vient aussi du death metal, même si c'est plutôt la scène américaine. C'est ce mélange-là, en fait, qui va faire que la musique d'Arcane va avoir sa propre identité. C'est que on vient pas tous du même ruisseau, quoi. Je pense qu'on a créé notre propre style grâce à ces influences différentes.
D'accord. Si on revient un peu dans le passé, votre dernier opus avant le petit nouveau, c'est Kelem en 2016.
Oui.
Est-ce qu'il y a un souvenir, un événement particulier qui, pour toi, synthétiserait cette période autour de Kelem?
Kelem, pour moi, c'était un moment vraiment spécial parce que, comme je te disais, je jouais plus de. Enfin, j'avais pratiquement arrêté de jouer de la musique sérieusement depuis 2009. Je faisais vraiment des piges, mais je ne m'investissais pas à long terme dans des projets. Et quand Fouad m'a demandé de venir un peu leur sauver la mise parce qu'ils avaient plus de chanteuses et que voilà, ils trouvaient hyper intéressant qu'on travaille ensemble, parce que Fouad était batteur de The Undead Tree, mon premier groupe, sur deux albums sortis en 2005 et 2007, donc on se connaissait depuis longtemps. Et quand il m'a proposé ça, moi j'étais pas du tout sûr d'y aller, j'avais vraiment peur. Et il m'a vraiment mis en confiance, il m'a expliqué que voilà, j'aurais rien d'autre à faire que mon chant, qu'il n'y aurait pas de problème, et ainsi de suite. Et donc j'ai accepté. J'ai accepté en ayant peur. Et par contre, quand je suis rentré dans le groupe, l'album était déjà composé, le studio était prévu pour un mois plus tard. Donc j'ai demandé à avoir un petit délai supplémentaire. Donc on a laissé 2 mois pour pouvoir vraiment écrire le chant, m'approprier les morceaux au maximum le plus vite possible. Et donc c'était quelque chose qui a été fait dans l'urgence, même si je suis très content de ce que j'ai pu apporter au groupe sur cet album-là. Enfin, le processus tel qu'il a été vécu pour Lila, ce nouvel album, est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus étudié. Je suis beaucoup plus en confort en fait par rapport à mon chant. J'ai vraiment eu le temps de l'écrire, de le préparer, de le travailler avec Florence, l'autre chanteur. Enfin, donc il y a deux chanteurs dans ce groupe-là et on a vraiment travaillé ensemble tout le temps sur le chant l'un de l'autre pour pouvoir avoir la meilleure osmose possible. Donc, KLM, ça a été pas mal de stress au final.
D'accord, ok. On apprend beaucoup, hein, c'est une aventure.
C'est ça.
Peut-être de façon assez, comment dirais-je, un peu ridicule. Moi, j'ai toujours le sentiment que quand un groupe se dit, bon, on a fini le chapitre précédent, il est temps de travailler sur la suite, ils se font une bouffe, hein, ils se retrouvent entre eux et ils papotent et ils définissent un peu où ils veulent aller. Alors, un, est-ce que ça se passe comme ça côté Arcane? Et
C'est
deux,
exactement comme ça que ça s'est passé.
comment on en arrive à dire, ok, on va prendre un sujet très fort, très contemporain, très personnel pour deux membres du groupe. Et est-ce que c'est pas la recette pour se casser la gueule comment dirais-je, et faire plus de dégâts que de positifs?
C'est une bonne question. Après, on n'est pas un grand groupe attendu au tournant par 10 millions de personnes. On peut se permettre de prendre des risques. C'est déjà, mine de rien, c'est un confort. Et par rapport à ça, cet événement que tu imagines, moi je m'en souviens très bien en l'occurrence, puisqu'il a eu lieu. On était dans le jardin de Fouad, le batteur, et on faisait un barbecue. Et je m'en souviens très très bien. Et on parlait, on avait déjà bu quelques verres. Depuis longtemps, enfin je veux dire, les autres membres du groupe, moi aussi, enfin Fouad, je connais depuis très longtemps, mais les autres membres du groupe, eux, se connaissent depuis 15 ans. Et depuis longtemps, Samir, le bassiste, et Mus, le guitariste, évoquent de temps à autre leur jeunesse en Algérie, en fait, et la décennie noire qui y a sévi dans les années 90. Mais souvent, c'est des petites anecdotes qui sont racontées sur un ton badin, comme s'il n'y avait rien de grave, alors qu'ils relatent des événements vraiment dramatiques, quoi. Et bon, moi j'avais été quand même assez estomaqué d'en entendre quelques-unes comme ça, mais Florent, lui, les connaissait depuis longtemps, ces histoires. Et de fil en aiguille, alors qu'on discutait de ce dont on pouvait parler, voilà, on voulait de faire un album qui parlait du printemps arabe et ses conséquences, et finalement de ce qui était un élan d'espoir et qui se termine pour dans la plupart des pays en catastrophe humanitaire ou politique. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire en fait après avoir traité de propos, enfin, de sujets si forts, de quoi est-ce qu'on pourrait parler? Puis bah, c'est venu presque naturellement. Cette idée-là, il a fallu quand même que Mus et Sam en discutent entre eux, qu'ils réfléchissent vraiment à savoir s'ils étaient prêts, parce que partager ces histoires avec des amis, c'est une chose, et partager avec le public, c'est encore autre chose. Et quand finalement, bah, ils ont dit, on peut essayer, on peut commencer à en parler. Ben, voilà, on a commencé un processus de retranscription avec Flo. On s'est vu Samir, Mus, Flo et moi à plusieurs reprises. On a fait des sessions, on notait, on leur a demandé de nous raconter, on leur a posé des questions, on a demandé des détails, on a demandé comment ça s'était passé exactement, ce basculement de l'Algérie dans la guerre civile, à quel moment c'était passé, quelles avaient été les étapes. pour bien comprendre la chose. Ensuite, Florent et moi, bah, de notre côté, on a fait nos devoirs, on a regardé les documentaires, on a cherché des vidéos sur YouTube pour essayer de bon, d'avoir encore plus de contexte. Et à partir de là, bah, l'album, lui, commençait musicalement à se construire. On a pu se projeter, on a pu voilà, dire parmi les 30 pages de notes qu'on avait, bah, moi j'ai noté cette histoire-là, je trouve que ça pourrait faire vraiment un vrai sujet de chanson, on pourrait faire ça, ou comment est-ce que tu veux qu'on la raconte, est-ce que tu veux qu'on prenne le point de vue, par exemple, là c'est Bus qui nous raconte tout ce qui lui est arrivé, est-ce qu'on prend le point de vue de l'enfant, ou est-ce qu'on prend le point de vue de son père, ou, et voilà. On a essayé de construire ça parce que on s'est retrouvé quand même mine de rien avec, je suis d'accord avec toi sur le côté un peu terrible, hein, on s'est retrouvé avec plein 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 de règles à respecter qui étaient ben, bon, la première des règles quand tu fais un album c'est d'écrire des textes qui ont du sens des textes qui sont esthétiques qui vont sonner tu vas choisir des mots qui vont être plus ou moins poétiques donc ça c'est ton travail de parolier quoi qu'il arrive mais maintenant avec ces mots-là il faut que tu arrives à ne pas trahir les idées qui t'ont été données par Mus et Sam donc là ça devient plus compliqué et puis il va falloir raconter leurs histoires mais de manière à ce que ça puisse parler à quelqu'un qui n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90. Il faut que ça puisse parler à un fan de métal américain qui ne sait même pas que l'Algérie existe dans la carte du monde. Et il faut que ça puisse parler surtout aux fans d'Arkane qui sont eux en Algérie, qui ont connu ces événements-là et qui ne doivent en aucun cas se sentir trahis par la manière dont on les raconte. Donc on s'est mis toutes ces barrières-là au départ et on a eu beaucoup, beaucoup d'exigences. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été rayées, refaites. Mais pour arriver à un résultat qui nous donne satisfait.
D'accord. Ok. Je pense que c'est pas le genre du groupe de faire. On l'a vu, là tu l'as dit précédemment sur Kellen, c'était le cas aussi. Le groupe a besoin, ou a pris en tout cas le parti d'évoquer des sujets sérieux et forts et pas de les mille et une nuits ou que sais-je. Enfin, vous aimez bien vous ancrer dans la réalité.
Oui, mais ça vient, je pense. Ça vient aussi de ce background métal extrême. Je pense que tu fais peut-être allusion à Miraz qui joue effectivement sur un côté un peu folklore des mille et une nuits, qui le fait avec beaucoup, beaucoup de talent d'ailleurs. Nous, même s'il y a des influences communes d'un point de vue mélodique, puisqu'on utilise énormément de gammes orientales, on ne fait pas la même musique du tout. On n'a pas du tout la même manière de raconter les choses. Et même si j'adore Miraz, en plus j'ai eu la chance de tourner avec eux en première partie de Symphonix en 2016. D'ailleurs, je suis avant d'entrer dans la scène. C'est un groupe incroyable sur scène comme sur album. C'est pas du tout. On raconte pas les mêmes choses et on ne fait pas la musique de la même façon.
D'accord. Finalement, comment on est un titre au sein d'Arkane? Quel est un peu le process que vous avez mis en place avec l'expérience?
Chaque album est différent. Pour celui-ci, Mus était donc le guitariste du groupe, était extrêmement inspiré. C'est un garçon qui a une capacité absolument hallucinante à composer. Il a composé, enfin, on a beaucoup travaillé ensemble, si tu veux, mais c'était lui qui sortait beaucoup les idées. Puis ensuite, on échangeait, on essayait de revoir l'orientation, lui dire peut-être si on changeait ça, qu'est-ce que t'en penses? Et Mus, en fait, va avoir tendance à écrire, peut-être, allez, je te dis un chiffre au hasard, mais on ne peut pas être loin des vérités, peut-être 10 riffs par jour. Et on a dû, pour les 12 chansons que tu peux entendre sur l'album, tel qu'il est aujourd'hui, il y a dû en avoir peut-être le triple qui a été jeté à la poubelle, parce qu'on est parti dans plein de directions différentes avant de choisir cette. Et on est parti beaucoup au début sur des morceaux très prog, on est parti sur du rock presque, hein, vraiment avec un son plus léger, mais très vite, on revient quand même aux fondamentaux de ce qu'est le style Arkane pour pouvoir développer cette histoire-là.
Mais donc finalement, il vous fournit des choses déjà très avancées, très structurées, ou c'est vraiment un squelette, quelques idées pour essayer de voir quelle orientation donner?
Non, c'est très avancé, très structuré. Et même quand c'est très avancé, très structuré, ça peut encore partir à la poubelle.
D'accord.
Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on se mette à travailler le chant sur un titre. Et puis, quand on arrive la semaine suivante, le titre n'existe plus.
D'accord. Mais c'est le titre n'existe plus, c'est démocratique ou pas?
Je pense que La démocratie dans un groupe, ça marche pas toujours. Ça va, ça,
D'accord.
et compte tenu, en fait, ça va vraiment dépendre de l'alchimie qu'il peut y avoir entre les membres et de la personnalité de chacun. Compte tenu de la personnalité de Mus, qui lui-même est quelqu'un de très très, est un petit peu chaotique même dans ses conversations, si tu veux, il peut passer d'un sujet à un autre. Il y a un petit côté génie hein, chez Mus. Si lui-même, si tu veux, ils sont déjà plusieurs dans sa tête, donc on va pas en rajouter comme ça.
D'accord.
Donc en général, c'est Mus et Foued qui vont faire l'arbitrage sur ce qui reste, sur ce qui ne reste pas. Et nous, par contre, enfin, les autres membres vont faire leur rapport en faisant des propositions. Par exemple, Mus va pas composer de chant. Le chant, c'est Florent et moi qui l'avons fait intégralement tous les deux. Mais par contre, il y a des moments où nos propositions n'ont pas été retenues et on nous a dit, bah, non, là, ça va pas, c'est pas assez bon. Essayer de trouver autre chose, proposer quelque chose d'autre. Tiens, est-ce que tu as écouté tel morceau de tel groupe? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que tu pourrais adapter ce type de chant à ce type de riff? Puis voilà, ça avance comme ça, mais il y a quand même une direction qui est assurée par les deux leaders, entre guillemets. Le leader, entre guillemets, politique, c'est Foued, c'est lui qui organise tout et qui fait en sorte que les choses se passent. Et le leader artistique, c'est Mus.
D'accord, ok. Bon, au moins, ça a l'avantage d'être clair, effectivement.
Exactement. Mais c'est très différent de ce que j'ai pu connaître dans The Electric auparavant. Donc, pour moi, c'était hyper enrichissant de rentrer dans ce groupe-là et de voir qu'il y a des groupes qui fonctionnent, mais complètement différemment de ce que j'ai pu connaître.
Bah, surtout, l'essentiel, c'est que ça génère pas de frustration chez toi ou chez les autres membres.
Toujours un peu. Hein. Tu sais, quand t'écris, quand tu crées, tu donnes un peu de toi. Donc, c'est toujours frustrant quand c'est pas retenu. Mais après, le plus important, c'est finalement pas la frustration, mais c'est aussi le résultat. Et le résultat, on en est tous très 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 fiers.
Qu'est-ce que tu peux nous dire en général, auxquels principaux souvenirs tu conserves de la session d'enregistrement? Donc tu en as parlé, un nom qui claque, Nordstrom, Fredman, au studio Fredman. Et donc voilà, quels souvenirs tu en gardes? Et pour arriver aux 12 titres finalisés, vous êtes arrivé là-bas en disant qu'il faut quand même optimiser votre temps parce que ça coûte cher, avec combien de titres?
Tout était déjà maquetté. Donc
Donc
on avait
vous aviez 12 et 12 sont sortis, quoi.
donc tout Arcane, tout est maquetté tout le temps. C'est-à-dire que il n'y a pas d'étape où il y a une vague idée qui trotte dans la tête. Tout est toujours enregistré systématiquement et après on finalise ou pas. Mais déjà pour le chant, comme moi j'aime beaucoup travailler avec beaucoup de cœur, les doubles chants, les triples chants, même si au mix ça peut être mis un petit peu en retrait, hein, mais il y a beaucoup de couches de chants. Et pour faire ça, et quand on n'a pas le temps de le chercher en studio, j'ai vraiment beaucoup travaillé à la maison ou avec Florent pour enregistrer tout ça et savoir exactement où on allait. Donc, il y a toujours une marge, si tu veux, parce que Nordstrom lui-même, il va t'apporter des idées, il va te dire, bah là, tu le fais comme ça, tu ne crois pas que tu peux faire un peu plus haut, ça rendrait mieux. Il y a toujours une marge pour des essais. Et tu l'as dit toi-même, on a peu de temps. On faisait des journées assez gigantesques d'enregistrement pour pouvoir tout faire tenir. Frédéric Nordstrom est un producteur très exigeant. Donc, ça a été évidemment difficile. Et il est très abrupt aussi. Hein. C'est-à-dire que, autant il est hyper sympa dans la vie, on a bu des coups, on a mangé ensemble, on a discuté, c'est un mec adorable. Autant quand on travaille, on rentre dans quelque chose de presque mécanique où seul le résultat va compter et où on ne va pas s'embarrasser avec des s'il te plaît, est-ce que ça va? Tu veux bien la refaire? Non, c'est again, again, again. Et des fois, c'est dur parce que on a intérêt à s'accrocher quand même pour être à la hauteur des exigences du monsieur. Mais bon, on va pas se mentir, vu l'expérience, vu les albums qu'il a pu produire par le passé, on va pas lui le remettre en question. Hein. On va juste plier ses exigences du mieux qu'on peut et essayer de sortir ce qu'il attend de nous.
D'accord. Là aussi, la question va peut-être te paraître naïve, mais finalement, les pistes de chant qui apparaissent sur l'album, la plupart du temps, c'est une même prise ou après, il y a un jeu de découpage et de remontage. Cette phrase-là de telle
Ah.
prise, plus ce refrain de telle prise, tu vois.
Non, ça va dépendre des titres, parce que ça va dépendre. Des fois, il y a effectivement, là aujourd'hui, dans les enregistrements modernes, il y a quasiment plus de one shot. Tu as énormément de découpage, mais cela dit, ça dépend toujours. En fait, moi je sais quand j'enregistre, par exemple, je fais baisser les lumières systématiquement, j'essaie de rentrer vraiment dans la chanson. Donc, je pense que le chant est peut-être un instrument vraiment particulier par rapport à ça. Mais quand tu arrives sur une prise qui n'est pas trop technique, et que tu arrives à te mettre dans le bon état d'esprit, ça vaut le coup de la garder en général. Enfin, la première ou la deuxième vont souvent être bonnes, y compris avec des imperfections, parce que il va y avoir une espèce de spontanéité et sans qu'il y ait un degré d'exigence technique énorme. C'est pas, enfin, j'ai des lignes de chant qui me viennent en tête qui sont vraiment difficiles à chanter, où ça va être vraiment compliqué d'être parfait sur chaque refrain, sur chaque couplet, ainsi de suite. Donc là, on va avoir tendance peut-être pour obtenir cette perfection, la perfection de l'album, à peut-être le faire en plusieurs fois, ou à faire 5 fois la chanson en entier, et puis ensuite de prendre le meilleur premier couplet, le meilleur deuxième couplet, ainsi de suite. Mais sinon, oui, c'est toujours mieux si on garde un petit peu d'imperfection, mais ça va aussi dépendre du style. Est-ce que, dans le cas d'Arcane, par exemple, il y a certains, je pense beaucoup aux refrains qui sont très accrocheurs, ils sont hyper catchy. Il n'y a pas trop de place à la vulnérabilité dans la voix. Par contre, dans les breaks, dans certains breaks où on est vraiment sur quelque chose de plus parlé, de plus raconté, au contraire, avoir un petit peu d'imperfection dans la voix, ça va amener de l'humanité, ça va ramener du sentiment. Donc, ça va vraiment dépendre des prises. Il n'y a pas de règle de ce côté-là.
D'accord. Mais cette sélection, ou c'est Nordstrom qui l'a fait ou qui la suggère ou...
La
D'accord.
plupart du temps, oui, parce que c'est lui qui va devoir mixer derrière, c'est lui qui va savoir si c'est bon ou pas. Et puis, après, bon, je ne vais pas parler pour tous les chanteurs, mais moi, de mon côté, quand je commence à enregistrer, assez vite, il y a une espèce de fatigue qui va rentrer en ligne de compte et je vais perdre un petit peu en lucidité. Et je vais me poser plein de questions, on me demande si je suis assez bon ou pas. Et donc, c'est à ce moment-là que c'est important d'avoir confiance dans la personne qui fait les prises, qui dit, celle-là, elle est bonne, celle-là, c'est bon, celle-là, tu peux la refaire, mais mets plus d'énergie sur cette syllabe ou tel truc. Et là, le fait de se faire guider par quelqu'un en qui on a confiance, c'est très très important.
Ok. Autre élément d'importance, c'est donc les différents visuels, donc sur déjà la pochette de l'album. Donc vous avez choisi de faire du très simple. Et je me suis demandé, est-ce que c'était un clin d'œil à Hilal, l'un côté, un côté sombre et un côté, tu vois, obscur et clair?
Exactement. Et puis, tu auras peut-être noté que Lila est composé des mêmes lettres que Hilal. C'était Fouad qui avait eu cette idée-là et qui voulait absolument boucler, en fait, faire une espèce d'album miroir à Hilal 15 ans plus tard. Donc c'était effectivement volontaire. Et de reprendre la même cover, mais avec dans une nouvelle atmosphère.
D'accord, et donc ça c'est une idée qui est venue assez tôt. Vous n'avez pas fait X version de pochette pour finalement arriver à cette idée-là.
Non, c'est ça.
Autre élément important des visuels, c'est tout ce qui est clip vidéo. Donc vous avez sorti une vidéo lyrics pour Broken Existence. Plus récemment, il y a My Son qui est sorti, qui est là aussi donc beaucoup de visuels et d'archives de l'époque. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux et est-ce que en général, sur l'expérience que tu as pu avoir avec ton précédent groupe ou celui-là, c'est un exercice que tu apprécies, les clips vidéo?
Ah, tu vois, là, par exemple, sur ce qui est pour les vidéos qui sont sorties, c'est des vidéos où nous n'apparaissons pas. Donc, pour nous, si tu veux, c'est surtout trouver les bonnes personnes pour le faire. C'est peut-être la seule difficulté. Mais bon, là, on a travaillé avec Amen Friend qui font un super travail, mais qui ont d'ailleurs aussi travaillé avec The End Entry, hein, c'est comme ça que moi je les ai connus.
Juste, vous n'apparaissez pas parce que Covid est compliqué ou parce que c'était l'objectif?
Déjà, je pense que de par les thèmes qu'on aborde, le groupe est suffisamment présent dans les textes, puisque c'est carrément les histoires des membres du groupe qu'on raconte. Mais en plus, on voulait que les gens se concentrent sur les paroles, pas forcément sur 5 types en train de bouger la tête. Ça, l'idée, c'était qu'ils viennent les voir, ces 5 types, sur scène, ce qui est un petit peu compromis par le climat actuel, hélas.
D'accord, ok. Justement, bah, parlons un peu de la sortie. À l'origine, ça devait sortir en mai. Il y a bizarrement quelques événements en 2020 qui ont fait repousser en octobre. Comment on vit ou comment on gère ce type de décision qu'on comprend bien. On comprend bien les choix de ce type-là, mais. On a toujours le sentiment que l'artiste il veut pouvoir envoyer ça vers son public le plus vite possible, et là en plus vous prenez 6 mois dans la figure, bon, vous y pouvez rien, mais personne n'y peut rien.
C'est ça. c'est beaucoup de frustration, et puis surtout beaucoup de frustration pour rien, parce que malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée par
Ouais, six mois
rapport
plus tard, c'est un peu
à la
pareil.
mi-mai. Alors, ça n'a pas bougé, il n'y a pas faire de concert, et donc on est un petit peu dans les spectatives. Je t'avoue que tout le groupe est un peu perdu sur ce qu'on doit faire ou la marche à suivre. Donc pour l'instant, on se contente de faire la promo du mieux qu'on peut, de sortir nos vidéos, et puis on va évidemment répondre à tous les fans qui vont nous solliciter via les réseaux sociaux, parce que ça va être le seul moyen d'avoir un échange et d'avoir des retours en fait des gens. Mais c'est vrai que oui, c'est une drôle de période, et surtout pour nous c'est difficile, et pour tous pour tout le monde de la culture, c'est une catastrophe quoi. Là, on commence vraiment à parler de faillite. Le mot faillite commence à revenir de plus en plus dans les conversations, et c'est pas bon.
Et vous avez envisagé de repousser encore la sortie? Là, il y a...
Non, parce qu'il y a un
Ouais.
moment donné, il fallait que ça sorte quand même.
Et en général, enfin, sans dévoiler de secret particulier, mais au sein du groupe, le premier confinement, ou le confinement, ou, le premier, j'en sais rien, le confinement, vous l'avez vécu comment?
Diversement, parce que certains d'entre nous sont en appartement, d'autres en maison. Donc déjà ceux qui étaient en maison étaient un peu mieux. Après,
Vous avez
à titre
pensé faire...
personnel, moi j'ai.
Ouais,
Pardon?
pardon, vas-y.
À titre personnel, moi j'ai pris ça comme un moment où on pouvait enfin se poser, prendre du recul et partager. Moi j'ai deux enfants, et partager un peu du temps de quotidien avec les enfants autres que les devoirs, même si il y en avait beaucoup à gérer au quotidien, c'était pas toujours évident, mais il n'y avait pas que ça, et c'était un moment de pause dans la vie. Je sais pas comment est la tienne, mais moi j'ai le sentiment des fois d'avoir trop de choses à gérer, trop de choses à faire, jamais le temps de tout finir, et d'un coup il y a eu le bouton pause qui a été enclenché, et il y a eu des moments très pénibles. Évidemment, de ne pas sortir c'est très pénible, de tout le temps les uns sur les autres c'est très pénible. Il y a eu des moments où aussi quand même c'était pas si désagréable que ça, de pouvoir ne pas avoir d'obligation plus que ça et de pouvoir se reposer. Donc il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur.
Et vous avez des projets, je sais pas quoi, je sais pas, un concert via Zoom, des machins en streaming, vous avez un peu
Non,
quelque
pour
chose de ce
l'instant non.
côté-là ou non?
Non, pour l'instant rien.
Ok.
Peut-être qu'on va le faire, hein, c'est pas la question. J'ai un de tes confrères qui me demandait si on pensait faire des concerts acoustiques, des versions acoustiques de Lila, ce qui serait quand même très ambitieux vu la teneur de la musique. Mais non, il y a plein de possibilités, il n'y en a aucune qui nous satisfait pleinement. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire.
Ok, si on prend un peu de recul là, sur ton expérience également de ces dernières années, comment tu vois la scène métal francilienne de ton balcon?
Assez bien, parce que j'habite au 28e étage de ma tour.
Ah
Donc
oui, t'as une
je
belle
vois
vue, ouais.
très loin. Je t'avoue que malheureusement, je dois avouer que en vieillissant, je me suis beaucoup moins intéressé à ce qui se faisait de nouveau dans la scène francilienne. Je ne peux que conseiller un album que j'ai découvert très récemment, mais qui vient de sortir, un groupe de post-doom qui s'appelle Maudit, enfin comme le mot maudit, mais au pluriel, qui vient de sortir un album instrumental que je trouve vraiment mais hyper réussi. Avec des ambiances incroyables, et je trouve que enfin, tout ce qui est musique instrumentale, je trouve ça très casse-gueule. C'est tellement dur de garder l'attention d'une audience avec 100 chanteurs. Ils y arrivent vraiment à la perfection. Donc, si je peux conseiller un groupe à tes auditeurs, c'est bien celui-ci.
Et ça pousse pas au suicide, ton groupe? Non, c'est
Enfin,
ça, c'est ça.
pas plus que 90% des groupes de métal, on va pas se mentir.
Non, mais je veux dire, c'est pas un truc doom, funéraire, glauque.
Non, 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 non.
Non, non, non.
Non, il y a des influences prog, il y a plein de choses dedans. C'est pas glauque du tout.
Et donc, juste pour terminer, même si tu es un peu répandu, mais on va peut-être essayer de finir sur une note d'espoir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
De vendre 1 million d'albums.
Ça, je vous le souhaite.
Non, ben, je pense que dans ces cas-là, il faut pas être égoïste. Il faut souhaiter, je sais pas, la découverte d'un vaccin ou la fin de cette maladie pour que la vie puisse reprendre avant que tout s'effondre pour de bon, quoi.
Pour que les gens se rendent bien compte, vous, là, pour l'instant, sur les semaines ou les mois à venir, tout est arrêté, il ne se passe plus rien.
Exactement.
Il n'y a même pas des plans sur la comète. C'est inutile,
Non,
pour l'instant, c'est de l'énergie inutile.
pour l'instant, ça sert à rien, parce que je vais te dire, avec Violet Plume, mon autre groupe, on a fait enfin, une reformation brève et qui devait donner lieu à des concerts en avril dernier. Les concerts ont été repoussés en octobre. La billetterie était mise en place, donc les tickets sont déjà vendus. Et là, en fait, on ne va pas pouvoir les tenir non plus, donc on essaye de repousser, enfin, on va repousser au printemps. Et même comme ça, il n'y a aucune garantie, en fait. Et à un moment donné, je ne sais pas si on pourra repousser les choses indéfiniment. Ça va faire déjà un report d'un an et demi par rapport aux dates initiales. Donc là, nous, c'était déjà booké avant le confinement. Donc pour un groupe qui voudrait booker maintenant, c'est très très compliqué. Extrêmement compliqué. Personne ne sait de quoi l'avenir sera fait et personne ne sait quelles structures seront encore debout à la fin de la pandémie.
Ok, ben non, j'espérais une finale plus optimiste, mais malheureusement, c'est la réalité.
Eh bien, écoute, il sera beau demain. Voilà, c'est
C'est ça, c'est ça.
le plus positif. C'est la seule chose que je peux te garantir.
Écoute, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
Écoute, c'était un plaisir.
Et puis, ben donc, tous mes voeux pour la suite et avec effectivement du soleil derrière les nuages.
Exactement, c'est parfait. Je prends. Je prends. Je
À
remercie.
bientôt, bonne soirée.
À bientôt, bonne soirée. Salut.
Ciao.